Donc je suis très heureux d'accueillir pour le Collège supérieur et au nom de Jean-Noël Dumont le philosophe Michael Bartzvi pour cette soirée. Je trouve que vous avez, au Collège supérieur en tout cas, présenté Michael Bartzvi en disant « voilà un philosophe sioniste ». Et c'est rare. Or, la question sioniste, c'est une question capitale pour la philosophie et pour la philosophie politique en particulier. Et c'est une question tout à fait capitale pour le XXe siècle, et c'est sans doute une question dont on voit les enjeux essentiels pour le XXIe siècle. Donc je suis vraiment très heureux qu'au Collège supérieur, on puisse inviter Michael Bartzvi et qu'on puisse faire de cette question un objet de réflexion commun. Donc merci à Jean-Noël Dumont d'avoir suscité cela et merci beaucoup à Michael Bartzvi d'être avec nous pour mener cette réflexion. Et ce qui vous caractérise sans doute, c'est n'est pas simplement d'avoir une position militante dans votre réflexion, mais d'être vraiment un philosophe. Vous êtes né en 1950, vous êtes docteur en philosophie de la Sorbonne et vous avez mené une réflexion en philosophie politique en particulier sur ce thème du sionisme, et comme tout philosophe, vous exercez une réflexion critique. On le verra dans votre conférence, j'aurais pu le rappeler à plusieurs moments dans vos livres. Je n'ai pas lu tous vos livres, je l'avoue, mais j'en ai lu au moins deux, et vous non plus.
Je les ai écrits.
Il y a des auteurs comme ça dont on se demande s'ils ont lu tout ce qu'ils ont écrit. Et en tout cas, vous menez de fait une réflexion aussi critique sur le sionisme, ne serait-ce que parce que vous en avez raconté l'histoire et que vous mettez en valeur le fait que c'est une réalité plurielle par les courants de pensée qui sont à l'origine. Et puis parce que aussi, il y a au moins un certain nombre d'idées un peu toutes faites sur le sionisme, soit l'idée que ce serait un projet pour une société idéale et donc qui serait fondée sur la justice sociale, ou encore qu'il ne serait né qu'en instrumentalisant la Shoah, ou bien qu'il ne serait né qu'en concentrant, qu'en se voulant un lieu d'identité nationale, ce qu'il est. Vous allez nous dire ce qu'il est par rapport à ça. Donc vous réfléchissez aussi sur un certain nombre d'idées reçues, y compris par des partisans du sionisme, sur le sionisme. Donc je trouve qu'il y a une réflexion critique importante et vous êtes un philosophe. Et c'est aussi comme cela qu'on va vous recevoir et vous écouter. Vous êtes docteur en philosophie. Et vous êtes parti de France en Israël en 1975. Vous devenez officier dans l'armée israélienne, dans une unité spéciale, je ne sais pas exactement laquelle d'ailleurs. Et vous devenez aussi professeur de philosophie à l'Institut Levinsky de Tel Aviv. Vous avez été marqué par quelques maîtres, Pierre Boutan d'un côté, c'est un maître étonnant, en tout cas paradoxal, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Gabriel Marcel aussi, et puis Emmanuel Levinas. Vous êtes intéressé beaucoup à la pédagogie, vous avez gardé un sens pédagogique élevé. Vous avez été détaché aussi de l'université israélienne de 2002 à 2010 comme délégué général du Keren Kayemet Leitzrael à Paris. Donc vous êtes inscrit à la fois dans la vie israélienne, dans la vie française et vous avez écrit plusieurs ouvrages. D'abord une philosophie de l'antisémitisme, je crois qu'on ne le trouve plus aujourd'hui. Vous avez réfléchi sur la question de la guerre, notamment avec une histoire de l'Irgun. C'est une question extrêmement importante. Comment dissocier la nation, l'État et la guerre? C'est une question assez fondamentale. Vous avez écrit un livre sur le sionisme et son histoire, que j'ai lu avec beaucoup d'attention et que j'ai trouvé tout à fait remarquable. Mais je pourrais dire pourquoi après. Et puis, vous avez fait paraître, je crois, ce qui a été votre thèse sur être et exil. Vous avez particulièrement travaillé sur un philosophe qui est Jabotinsky, dont vous nous parlerez peut-être tout à l'heure. Et puis, vous avez fait paraître, beaucoup de ces œuvres sont parues aux Provinciales, aux éditions des Provinciales. Olivier Véron doit être parmi nous, je ne sais pas, là-bas, voilà, qui est cet éditeur. et qui s'intéresse beaucoup à cette question sioniste. Et le dernier livre que vous avez fait paraître, c'est Israël et la France. C'est un livre qui, je dois dire, m'a intrigué par son audace. Parce que interpeller la France en disant que sa relation à Israël est symptomatique de sa bonne santé politique, finalement, c'est quelque chose d'assez original, d'assez intéressant, et je crois tout à fait intéressant à entendre aujourd'hui. Je terminerai en disant que, effectivement, réfléchir sur la question d'Israël et du sionisme est une question importante, puisque pour nous, dans la philosophie politique française, on voit bien que le juif n'est reconnu qu'à condition qu'il disparaisse. C'était une grande thèse de Shmuel Trigano dans La demeure oubliée, qui était un très bel ouvrage de 1984. Et c'est aussi une thèse qui, finalement, est celle de Moïse Mendelssohn. Et c'est ce qui fait que la question du sionisme est sans doute une question très difficile à lire pour nous aujourd'hui. Or, aujourd'hui, c'est toujours une question essentielle, ne serait-ce que pour repenser aussi la relation de la nation au politique, du religieux au politique, qui est une question si fondamentale aujourd'hui. Et puis, pour penser aussi probablement, on a vu tout à l'heure Peggy, n'est-ce pas, pour repenser ce rapport de la guerre à la nation, aussi Peggy étant un penseur très fort, justement, de cette relation. Voilà, donc je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup de la prendre sur ce thème.
Bon, au fond, c'est vous qui pourriez faire la conférence. Donc, j'avais préparé un certain nombre de choses à dire, mais finalement, j'ai décidé que non. Voilà, vous avez posé des questions. Je ne pense pas que je vais y répondre, mais en tout cas, je vais essayer d'expliquer un point de vue. Vous dites qu'il est original. Moi, je dis qu'il est peut-être un appel, un sursaut à quelque chose qui est important pour deux nations auxquelles je suis extrêmement attaché et auxquelles je pense que nous devons tous ici rester fidèles, qui sont la France et Israël. Et pour moi, ce sont deux nations qui ont deux peuples, qui ont plus qu'une relation d'amitié, qui ont des sources ou des origines spirituelles communes. Je pense que dans cette relation, il y a eu une histoire compliquée, comme on dit aujourd'hui, complexe, avec des remous, comme dans tous les parcours historiques. Et donc, ces remous ont parfois éloigné ces deux peuples, ces deux nations, parfois les ont rapprochés et les ont, je dirais même, unis dans un destin. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, du 21e siècle, il n'y a qu'une union forte entre Israël et la France qui peut être salutaire aussi bien pour la France que pour Israël. Je vais expliquer mon propos un peu plus en détail et essayer de l'étayer avec, disons, des éléments que j'ai étudiés et que j'étudie, sur lesquels je réfléchis depuis très longtemps. Mais je voudrais d'abord vous livrer un sentiment qui est assez curieux depuis que je suis en France et surtout depuis l'été dernier. Au départ, mon idée était d'écrire un livre que je voulais appeler « La France juive ». C'est un très bon titre. Bon, quelqu'un l'avait déjà utilisé avant moi et ça avait pas mal marché d'ailleurs puisqu'il avait dû avoir une centaine d'éditions de cet ouvrage. Et donc je m'étais dit pourquoi ne pas écrire au fond le contre-pied de cet ouvrage en disant finalement Drumont avait raison, la France est vraiment juive mais au sens spirituel des choses et justement pour fonder cette relation et montrer quelles étaient avec quelle profondeur, finalement, il y avait en France une présence du judaïsme et de sa richesse et qu'elle pouvait même alimenter un renouveau dans les cultures françaises et israéliennes et autres. Et puis, il y a eu l'été dernier. L'été dernier, nous avons vu une guerre qui s'est déroulée chez nous un petit peu en Israël, à Gaza, à Tel Aviv, et on a vu ce qui s'est passé en France, le renouveau d'une forme d'antisémitisme qu'on avait un petit peu oublié, mais qui a toujours été présent, Mais on a quand même entendu dans les rues de Paris, mort aux Juifs, on a eu une forme de pogrom un peu à Sarcelles, appelons ça comme ça, je ne connais pas d'autres définitions, de gens qui ouvertement disaient « nous sommes prêts à tuer du Juif ». Et quand on a vu ça, chez nous, à la télévision en Israël, on a, alors que mes amis m'appelaient, vont me dire « qu'est-ce qui se passe en Israël ?» étaient inquiets pour nous, mais nous, on était inquiets pour ce qui se passait en France. On avait, j'appelais mes amis français en disant « mais attendez, qu'est-ce qui se passe ?» Et je me suis rendu compte qu'il y avait une grande différence entre mon parcours, mon itinéraire. Lorsque je suis parti de France, il y a 40 ans à peu près, je suis parti de France avec un amour de la France profond, un amour de sa culture, de la richesse intellectuelle de ce pays, et surtout de ce pays qui m'avait éduqué, élevé, et j'espérais, comme mon projet sioniste, comme vous dites, Pierre, mon projet sioniste, c'était justement d'enrichir mon expérience de nouvel Israélien, disons, par cette culture française, par ce que la France m'avait apporté. Or, aujourd'hui, le sentiment que j'ai, mais surtout depuis ces derniers mois, c'est que les Juifs qui quittent la France aujourd'hui pour aller s'installer en Israël, ils le font parce qu'ils se sentent rejetés de France et eux-mêmes, d'ailleurs, rejettent la France, ils ne veulent plus en entendre parler, ou ils ont une espèce de... Voilà, ils ne se sentent plus ici, chez eux, et nous assistons à ce que j'appelle la déconstruction de la demeure juive en France. Non pas au sens physique. Au sens physique, je sais qu'il y a toujours, pour avoir écrit un livre sur l'antisémitisme, je sais qu'il y a toujours eu de l'antisémitisme en France, comme il y a toujours eu de la bêtise dans le monde et comme il y a toujours eu des phénomènes de haine et de persécution. Et donc, bon, le peuple juif, nous avons l'habitude. Donc, et nous savons que l'antisémitisme est quelque chose qui ne disparaîtra pas et qui perdure pour toutes sortes de raisons qu'on peut expliquer, économiques, sociales et autres. Sauf que même chez les grands antisémites, la figure juive existait. C'est-à-dire que certains antisémites étaient peut-être antisémites parce qu'ils n'aimaient pas leurs voisins qui avaient fait fortune alors qu'ils n'avaient pas réussi dans les affaires, ou parce que les Juifs étaient un peu trop présents dans le domaine des arts, de la culture ou d'autres domaines, politiques ou autres. Donc il y avait du ressentiment, c'était un antisémitisme qu'on peut expliquer, encore une fois, loin de moi l'idée de le justifier, de l'expliquer, ou même de... Voilà, on peut l'expliquer, ça ne veut pas dire qu'on le comprend, ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, on le combat, de toute façon. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on est en train de déconstruire l'image, la figure d'Israël. C'est-à-dire qu'on est en train d'effacer la présence du judaïsme dans la culture française. J'ai été élevé en France, donc pour moi, la culture française, c'est bien évidemment ce que j'ai appris à l'école. Alors, on a évoqué Peggy, bien sûr. Alors, Peggy, c'est un grand amoureux d'Israël, donc on peut dire, bon, Peggy, c'est à part. Bon. Mais malgré tout, dans la culture française, il y a une présence juive. Racine, Pascal, Bossuet, Montesquieu, peu. Là où vous allez chercher, vous trouvez la figure d'Israël. Une figure d'Israël qui est là comme source, qui est là comme racine, qui est là comme une présence constante. Et la France s'inspire du judaïsme. Je rappelle dans mon livre que la nation française, le royaume de France, dès le départ est fondée sur l'idée biblique du royaume de David. Les ordines de 1877, je pense, l'idée de l'onction du roi, c'est une idée biblique. C'est une idée qui vient du royaume de David. Les emblèmes du royaume de France, le lys et l'oriflamme, le pouvoir de guérison et l'onction qui est donnée au moment du couronnement, tout ça, ce sont des idées qui sont inspirées de la Bible. Et donc, je dis même les antisémites, malgré tout, gardaient la figure d'Israël. Elle, parfois de façon négative, mais gardaient cette figure. Or, aujourd'hui, on est en train d'effacer le nom d'Israël, d'effacer cette figure d'Israël en disant, finalement, il n'y a... Alors, on le fait de façon perverse, à la fois en effaçant l'héritage, le passé de la France, et donc évidemment son passé chrétien, mais aussi son passé judéo-chrétien, dans la mesure où un chrétien est quelqu'un qui se place finalement dans la continuité du judaïsme. Et donc ce mouvement, si on peut, c'est pas vraiment un mouvement intellectuel, je dirais cette tendance qui se finalement de supprimer ces origines de la nation française qui sont profondément des origines juives, ce mouvement-là fait partie, je dirais, de la doxa de la bien-pensance en France aujourd'hui. Et évidemment, il y a tout un tas de raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, cette présence juive, cette source-là, elle disparaît ou on veut l'effacer à travers un certain nombre de concepts et d'idées que le judaïsme a amené à la culture et notamment à la culture française. Lisez ou relisez, pour ceux qui l'ont lu, Jean Bodin ou Bossuet, par exemple. Donnons l'exemple de Bossuet, c'est peut-être plus... Lorsque Bossuet écrit son fameux texte politique tiré des paroles de l'Écriture sainte, qui est en fait un texte d'éducation, un texte de pédagogie, hein, un texte qui est destiné, était précepteur du dauphin, et donc c'est un texte dans lequel il veut former le futur roi, et comme il veut s'inspirer d'un modèle, il avance un certain nombre d'idées qui sont fondamentales et qui viennent du judaïsme. L'idée d'autorité, l'idée de roi, l'idée que le roi, il n'est pas, finalement, il y a quelque chose qui est au-dessus de lui, l'idée de la transcendance, l'idée de la souveraineté, qu'on retrouve aussi chez Jean Bodin, par exemple. Alors, pareil, inspiré du judaïsme. Jean Bodin, lorsqu'il écrit le livre dans lequel il avance ses idées politiques, se présente sous la figure du roi Salomon. Donc, ça n'est pas, encore une fois, toutes ces idées-là, elles sont aujourd'hui remises en cause. Aujourd'hui, le peuple juif est remis en cause comme peuple source, comme peuple racine de ses idées fondamentales. Et lorsque on nie ou on essaie d'effacer ces idées fondamentales, comme la notion de peuple, comme la notion de souveraineté, comme la notion de loi, eh bien, on arrive à effacer le nom juif, si vous voulez, de la culture française. Mais là où ça va encore plus loin, c'est sur le destin, ce que j'ai appelé la communauté de destin entre Israël et la France. La communauté de destin entre Israël et la France, elle se fonde sur deux idées qui sont absolument fondamentales si on veut comprendre ce qu'est la nation juive, le peuple d'Israël et le peuple français. La première notion, c'est la notion d'élection. Cette notion d'élection, alors, si vous lisez le livre, j'explique ce qu'est la notion d'élection dans le judaïsme, comment elle se fabrique, si je peux dire, en tant qu'idée. Cette notion d'élection, de peuple élu, c'est un peuple qui est non pas à qui on a accordé des droits, mais surtout des devoirs. Donc, qui se sent investi d'une mission qui est une mission qui dépasse la politique, mais qui est malgré tout une mission qui se déroule dans l'histoire. Ça n'est pas quelque chose qui est hors de l'histoire. C'est avoir un rôle dans l'histoire. Et c'est dans cette fidélité à cette mission, le peuple élu, que le peuple juif se situe. Encore une fois, nous sommes juifs en Moïse, nous, d'une certaine façon, même si vous n'êtes pas un juif religieux pratiquant, vous êtes juif en Moïse à cause de cette révélation et de cette acceptation de la notion de loi et de cette loi qui est au-dessus de nous. Alors, lorsque, je rappelle l'histoire biblique, mais enfin, je ne vais pas vous faire de l'histoire biblique ici, ce serait, comme on dit chez nous, chez les juifs séfarades, ce serait péché, donc je ne vais pas faire ça, mais malgré tout, Vous vous souvenez que lorsque, avant que Dieu donne les tables de la loi à Moïse, il se rend compte que Moïse a déjà une idée de la morale. Vous savez, il y a trois scènes à un moment où il sauve un juif, un esclave et une femme. Bon, et donc Dieu se dit, ce type-là est moral, je vais pouvoir lui confier les tables de la loi, ce qui après pose des difficultés. Les juifs ne sont pas extrêmement enthousiaste à l'idée d'accomplir ce rôle, mais ils comprennent qu'il y a un fardeau, qu'il y a une mission, et que cette mission, on ne peut l'accomplir que dans la singularité universelle. C'est-à-dire, en étant fidèle à sa singularité, on peut être dans une forme d'universalisme. Aujourd'hui, cette idée-là, elle est complètement renversée. Donc, il ne faut surtout pas être soi-même, et donc, il faut surtout savoir que nous n'avons pas une seule identité, nous en avons plusieurs, etc. Je reviendrai sur la notion d'identité, elle est fondamentale sur mon propos, et je reviendrai là-dessus. Et donc cette idée d'élection comme devoir envers l'humanité, c'est une notion que la France a adoptée dès le départ. Dès la constitution de la nation française, la nation française se pense comme un peuple élu. Ce qui explique d'ailleurs une partie des événements, disons, antisémites en France. Parce qu'il y avait certains rois ou certains théologiens qui avaient du mal à penser qu'il pouvait y avoir deux peuples élus sur une même terre. Donc, du coup, s'il restait des juifs, ça posait un problème, puisque nous étions, nous, Français, le peuple élu. Donc, s'il restait des juifs, bon. Donc, certaines personnes ont eu du mal à penser cette relation, ce qui explique aussi par un certain moment le statut privilégié des juifs sous certains rois. Alors, j'entre pas dans le détail historique, on pourrait faire un séminaire là-dessus, mais toujours est-il qu'il y a dans cette idée que le peuple français est un peuple qui se situe dans la même idée d'élection quelque chose de fondamental. Il faut comprendre aussi que dans la constitution de la France, les juifs ont un rôle fondamental. C'est-à-dire que je lisais récemment les recherches d'un très grand linguiste français qui s'appelle Claude Agege, dont vous avez dû entendre parler, qui dit « L'ancien français s'est constitué en tant que langue à partir de ce qu'on appelle les glosses de Rachi. » Rachi qui était un des plus grands commentateurs de la Bible et qui vivait en France, en Champagne, au XIe siècle. Donc Rachi a eu une influence sur la constitution de la langue française. Il y a eu ce qu'on appelait un Talmud de France, sous cette expression-là. Les plus grands commentateurs de la Bible, avant le XIIIe siècle, alors le XIIIe siècle, c'est le moment où il y a eu la fameuse discussion sur le Talmud en place de Grève qui a abouti à l'autodafé sur le Talmud, 1240, si je ne me trompe pas. Mais auparavant, il y a une symbiose entre la communauté juive et la France. On voit par exemple que le petit-fils de Rachi, qui est un des très grands, ce qu'on appelle en hébreu un tosafiste, c'est-à-dire un des commentateurs, vous savez, il y a plusieurs niveaux de commentaires sur la Bible. Dans le Talmud, vous avez les premiers commentaires. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la Gemara. Ensuite, Mishnah avec Gemara. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les Baraita. Et après, vous avez les Tosafot, c'est-à-dire les suppléments, ce qu'on appelle. Et sur ces suppléments, vous avez encore d'autres commentaires, commentaires sur commentaires. Une fois que Rashi a été accepté comme commentateur, disons, officiel de la Bible, on a rajouté ce qu'on appelle des Tosafot, ces suppléments. Donc le plus grand Tosafiste, qui était le petit-fils de Rachi, qui s'appelait Rabbeinu Tam, on a découvert qu'il avait des relations avec le comte Henri Champagne, qui s'écrivait des lettres. Henri Champagne lui demandait des explications sur la Bible, sur certains livres, il voulait avoir ses commentaires. Et d'un autre côté, le Rabbeinu Tam, vous voyez, rabbin, il allait chasser avec le comte de Champagne. Donc, il y avait une véritable symbiose entre... je veux dire, les communautés juives. Des choses que peut-être vous ne savez pas, vous n'êtes pas censé le savoir. Bon, il y aura un examen à la fin quand même, hein, je vous préviens. La grammaire hébraïque, celle que nous utilisons aujourd'hui, les fondements de la grammaire hébraïque ont été rédigés par des rabbins qui vivaient en Provence. La Kabbale, tout le monde a entendu parler de la Kabbale, l'origine de la Kabbale, c'est en Provence. Les premiers kabbalistes sont des Provençaux. Évidemment, vous avez entendu parler des Juifs du Comtat vénétien. Donc, il y a toute une présence juive en France, ancienne depuis Hérode, et qui n'a jamais cessé d'exister. Les Juifs ont toujours été présents, évidemment présents dans la culture française et dans le, je dirais, dans la littérature française, dans les arts. Le premier rendez-vous manqué, si je peux, puisque je vois qu'on a appelé ça un rendez-vous manqué. Le premier moment où, peut-être le premier malentendu, la première incompréhension, le premier, disons, rendez-vous qui est, comme on dit, manqué, c'est la Révolution française. Alors ça commence un petit peu avant, parce qu'il faut comprendre que la Révolution française a bien entendu des origines intellectuelles, spirituelles, dans la philosophie des Lumières. Il y a un philosophe très intéressant qui a une vision très curieuse du judaïsme, assez curieuse, évidemment, c'est Rousseau. Hein, je reviendrai sur Rousseau, et puis c'est Montesquieu. Alors, Montesquieu est quand même... c'était assez curieux, la vision de Montesquieu, mais bon, encore une fois... la question de Montesquieu était exactement la même question qu'il se pose à propos des persans. Il dit comment peut-on être persan ? Et au fond, après, on se dit comment peut-on être juif ? C'est ça. Là, c'est comme... Et donc, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire être juif ? Et dans l'esprit des lois, il y a des très beaux textes de Montesquieu qui expliquent très bien que la notion de loi est une notion qui vient du judaïsme. Rousseau, c'est un petit peu plus complexe. Rousseau avait une espèce de double attitude par rapport aux juifs, à la fois... quelque chose de très moderne et qui posait la véritable question du sionisme, puisque vous avez interrogé tout à l'heure, c'est qu'il se posait la question de savoir comment se fait-il que cette nation qui était dispersée, qui avait été privée de ce qu'on appelle tous les attributs de la souveraineté et qui n'avait pas d'État, comment justement ce peuple-là était au fond le peuple le plus politique et le peuple qui avait le plus la notion de ce qu'était la politique. Et donc, il se posait la question de savoir pourquoi ce peuple-là avait réussi à subsister, non seulement en tant que peuple pratiquant une religion, mais aussi avec une notion du politique. Et d'ailleurs, il envisageait lui-même déjà le retour des Juifs sur une terre et de recréer un État. C'est écrit dans un texte sur... à propos de la Pologne d'ailleurs, mais enfin à propos du gouvernement de la Pologne, où il parle de l'utopie, et il disait, et justement il dit, voilà, je pourrais vous retrouver le texte, il est dans le livre, donc je n'y reviens pas. La Révolution française a constitué ce premier hiatus sur la base d'une idée que Rousseau a, dont Rousseau a peut-être été le, on pourrait dire, pas dire l'instigateur, mais enfin peut-être c'est lui qui a initié, l'initiateur d'une notion qui est fondamentale pour le monde moderne, c'est la notion d'identité. Là, on est dans l'actualité. Hein. C'est dans l'actualité. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que l'identité ? Autrement dit, qui suis-je ? Qui suis-je ? Et la question de l'identité est une question qui n'est pas du tout juive. Le mot d'identité n'existe pas dans le judaïsme. Vous ne trouverez pas. Sauf, évidemment, dans l'hébreu moderne, on va utiliser le mot pour dire carte d'identité. Nous avons un mot pour dire carte d'identité. Mais le mot... identité, à savoir être comme quelque chose. Qu'est-ce que c'est que l'identité ? C'est être comme quelque chose. Oui, il ressemble, il est comme son père. Identique, c'est être comme. Dans le judaïsme, l'idée fondamentale, c'est l'altérité. C'est justement que pas comme. Et donc, la notion d'identité n'existant pas dans le judaïsme, nous pensons, nous, juifs, dans une appartenance à un peuple et non pas dans une identité. Une identité, c'est quelque chose, au fond, qu'on peut choisir. Et vous voyez ce qui se passe dans le discours de la modernité, où les gens, ils sont multi-identitaires. Hein. Donc, on a tous plein d'identités. Voilà. Je ne parle pas des identités sexuelles polymorphes actuelles, parce que là, on est complètement perdu. Voilà. J'ai eu un grand choc culturel, mais ça, c'est un aparté. En arrivant ici, on m'a envoyé voir le film de François Ozon. Bon, bref. Donc je me suis dit, oulala. Et la notion d'identité, Et donc, n'étant pas une notion juive, nous sommes, nous, dans une idée d'appartenance qui est liée à ce qu'on peut appeler l'alliance. Cette alliance, elle fonde quelque chose, non seulement l'appartenance dans le judaïsme, mais l'autre idée, à part celle d'élection, qui est au fond, je dirais, le complément de la notion d'élection, c'est le messianisme. Et évidemment que le messianisme est une idée profondément juive, mais au départ, le messianisme est une idée juive politique. Dans la Bible, on parle du Mashiach, c'est-à-dire du Messie, mais il est désigné avant tout comme ayant un rôle dans l'histoire. C'est pas quelque chose, ça n'est pas une, je veux dire, ça n'est pas un personnage qui est hors de l'histoire, qui serait purement une, disons, un personnage purement spirituel. Le Messie, dans la Bible, il est dit Melech Mashiach, ce qu'on appelle le roi Messie. Il est d'abord, c'est pour ça qu'il y a cette onction, donc d'abord il a un pouvoir et il a un rôle dans l'histoire. Et c'est important par rapport à la Révolution française, parce que la Révolution française va laïciser la notion de messianisme. Donc elle va inventer quelque chose qui va être porteur sur le plan historique, il faut le reconnaître et le savoir, c'est-à-dire l'idée d'un messianisme laïque, l'idée d'une mission universelle que pourrait avoir un peuple, d'une révolution, voilà, qui va changer l'ordre du monde. Et donc, mais sans religion et sans appartenance à d'autres, sans autres appartenances que celles. Et donc, la Révolution française, à travers cette phrase que vous connaissez bien sûr de Clermont-Tonnerre, qui dit « Nous allons tout donner aux Juifs comme individus, mais rien en tant que peuple », donc en fait, la Révolution française va exiger des Juifs qu'ils renoncent à leur appartenance à un peuple, en leur donnant, en fait, en leur proposant un marché qui est très simple. Vous renoncez à votre appartenance nationale, à un peuple, en échange de quoi nous vous accordons des droits civiques. Bon, les Juifs étant en France dans des situations un peu difficiles, socialement, économiquement et politiquement, ne pouvaient pas refuser ce marché. Ils pouvaient refuser, mais enfin, la guillotine, c'est... Bon. Donc, c'était difficile de refuser le marché. Et donc, ils finissent par accepter ce qu'on a appelé l'émancipation. Si vous voulez. L'émancipation, à savoir le fait de leur attribuer des droits à titre individuel, mais de leur enlever toute prétention ou toute exigence à un droit en tant que peuple, que nation. Cette émancipation, ce modèle français de l'émancipation, il n'est pas l'unique modèle. Il y a eu d'autres modèles d'émancipation où on n'a pas demandé aux Juifs de renoncer à leur appartenance à un peuple. En Hollande, par exemple, où les Juifs ont eu une émancipation, mais on ne leur a rien demandé en échange. On ne leur a pas demandé de renoncer à cette appartenance nationale ou appartenance à un peuple. À partir du moment où les Juifs se sont retrouvés dans cette situation, ils ont donc pu se choisir une identité. Et on leur a dit, voilà, c'est un choix personnel. Le judaïsme est devenu un choix personnel. Et donc, on a confiné le judaïsme à une pratique religieuse, uniquement. Mais comme les Juifs avaient quand même cette appartenance nationale, on a fini par les soupçonner de rester juifs, malgré tout. D'où, si vous voulez, l'antisémitisme moderne, qui ne reproche pas aux Juifs d'avoir crucifié Jésus ou d'avoir fait telle ou telle chose, mais au fond de ne pas pouvoir être reconnu en tant juif alors qu'il l'était. Et là, je reviens à Montesquieu. Montesquieu, sans le vouloir, le pauvre, paix son âme, a été à l'origine d'un texte qui est un des plus grands textes antisémites que l'on connaît, qui est le Protocole des sages de Sion, qui est fondé sur l'idée que les Juifs ayant été privés de leur appartenance nationale et de ce lien entre eux, et étant aujourd'hui uniquement, enfin aujourd'hui à l'époque de, après la Révolution, à l'époque de l'émancipation, ayant dû uniquement se contenter de droits individuels, malgré tout auraient gardé entre eux des liens. Et donc, essaierait d'une façon clandestine, malgré tout, de garder, de conquérir le pouvoir et de prendre le pouvoir. Et donc cette idée qu'il existe une puissance juive secrète et internationale qui va à ce qu'on appelle le complot juif, quoi. Et donc on a inventé cette théorie du complot qui est à la base du protocole de Sage de Sion, qui est fondé sur un dialogue tout à fait fictif, complètement inventé, dont on sait que c'est un faux, qui est un dialogue écrit par un certain Maurice Joly, qui rapporte un dialogue aux enfers entre Montesquieu et Machiavel, où on explique que le peuple juif, ayant obtenu des droits, ayant été émancipé, se trouve finalement dans une position où a reconstitué un complot international pour non plus prendre en main les rênes de la France, mais du monde entier, tout simplement. L'autre aspect de la Révolution française, c'est qu'effectivement, les Juifs sont arrivés à entrer dans des endroits ou dans des parts de la société française où ils n'étaient pas auparavant. Ils ont pu entrer à titre individuel dans les plus hautes sphères de l'économie, de la culture, et aussi d'un endroit extrêmement sacré pour toute nation, c'est l'armée. Et on a donc vu des Juifs qui ont commencé à entrer, puisqu'ils avaient non seulement des droits, mais aussi des devoirs. Donc ils devaient entrer dans l'armée. Et là, j'en arrive au deuxième rendez-vous manqué, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, affaire rendez-vous manqué extrêmement important dans l'histoire de France et dans l'histoire des Juifs en France, parce que l'affaire Dreyfus, c'est une histoire qui a plusieurs aspects. Le premier, c'est que pour la première fois, un Juif arrive à une position d'officier dans peut-être le cœur de l'armée, c'est-à-dire les services de renseignement. Donc c'est là se trouvent tous les secrets militaires, à une période de tension, de grande tension avec l'Allemagne, que ce Juif, il est d'origine alsacienne, donc qu'une partie de sa famille est, depuis 1870, sous la botte allemande, qu'une partie de sa famille est restée en Allemagne, qu'une partie de sa famille est en France, que c'est un bourgeois d'une famille aisée, même lorsqu'il vient, c'est raconté, si vous lisez les souvenirs de la personne peut-être la plus importante de l'affaire Dreyfus, qui est le commandant Picard, qui après deviendra ministre de la Défense, qui raconte que Dreyfus était un type pas très sympathique, quoi. C'était un grand bourgeois, alors que l'armée, c'était plutôt populaire, sauf les... Qu'est-ce qui se passe au moment de l'affaire Dreyfus ? C'est qu'un Juif est accusé de trahison dans l'armée. Et donc, quelque part, il y a deux conséquences, ou peut-être trois, mais bon. La première conséquence, c'est qu'un innocent est condamné et que donc ça pose, pour une fois, le problème du rapport de l'État et de la justice. Et donc, il y a des gens qui sont animés de cette idée de la justice, qui est une idée profondément, je dirais, juive et chrétienne, et qui donc vont prendre la défense de Dreyfus, parce qu'ils disent, voilà, l'État est en train de condamner un innocent, c'est une affaire de justice qui dépasse la personnalité même de Dreyfus. Ça, c'est Peggy Bernard Lazare. Des gens qui sont, je ne vais pas dire qui sont un peu tombés dans les oubliettes de l'histoire, même si aujourd'hui on retrouve Peggy depuis quelques années, mais Bernard Lazare, qui aurait entendu parler de Bernard Lazare si Peggy n'avait pas écrit tout ce qu'il a écrit dans Notre Jeunesse et autres. Bernard Lazare, c'était un juif anarchiste qui était un peu lié au mouvement symboliste, qui était plutôt quelqu'un un peu un illuminé, je dirais, mais qui avait un sens de l'honneur et qui dit, là, voilà, qu'est-ce qu'on a retenu de l'affaire Dreyfus ? Tout le monde, vous demandez à n'importe quel Français lambda, qu'est-ce que vous retenez de l'affaire Dreyfus ? On va vous dire, Émile Zola, j'accuse. Qui arrive bien plus tard, ce texte-là. Et qui est un texte politique qui crée finalement un débat entre la droite et la gauche, entre les pacifistes entre l'armée et la gauche. Enfin, il y a tout un débat politique qui est complètement en dehors de ce qu'est l'affaire Dreyfus au départ. L'affaire Dreyfus est une affaire qui touche justement à ce lien entre l'État et la justice. Bernard Lazare écrit un livre sur, pour défendre Peggy, d'ailleurs contre l'avis du frère de Dreyfus, qui dit, bon, il ne faut pas faire trop de vagues, on va essayer de le sortir de là, mais il ne faut pas faire trop de vagues. La communauté juive, les notables juifs sont opposés et sont prêts à sacrifier Dreyfus au début pour avoir la paix. Donc, et là, il y a deux personnes, enfin, à part Peggy et Bernard Lazare, bien sûr, qui disent non, il y a une question d'honneur, c'est une question de fierté, c'est une question de dignité, et donc il faut redonner au peuple juif sa dignité, sa fierté, à travers justement l'image de Dreyfus, qui n'était pas un traître, mais qui était un soldat qui était fidèle à sa nation et à sa mission. Et il y a une autre personne qui est à Paris à ce moment-là et qui va être influencée par l'affaire Dreyfus, c'est Théodore Herzl, qui est le fondateur du mouvement sioniste. Et quelque part, Théodore Herzl est... Alors vous avez évoqué la notion de pluralisme à propos du sionisme. C'est pour vous montrer que le sionisme n'est pas exactement un mouvement politique idéologique, au sens classique. C'est pas être sioniste, ce n'est pas comme être communiste ou socialiste ou je ne sais pas quoi. Être sioniste, c'est d'abord fondé sur deux idées. La première, c'est que le peuple juif doit retrouver sa fierté et la fierté de son appartenance à ce peuple. Et c'est ça, au départ, qui est le point de départ de Bernard Lazare. Lorsque Bernard Lazare était un type, comme je l'ai dit, un peu anarchiste, de gauche, et Théodore Herzl était plutôt un libéral, qui avait fait des études de droit, qui était journaliste et qui représentait son journal à Paris, qui était le correspondant de son journal viennois à Paris. Tous les deux étaient, au fond, des résultats de l'émancipation. Tous les deux avaient bénéficié de ce qu'on appelait l'émancipation individuelle des Juifs. Un en étant à gauche, l'autre en étant plutôt à droite. Et tous les deux arrivent à la conclusion que si, en France, le pays qui a donné pour la première fois les droits civiques aux Juifs en tant que citoyens, en tant qu'individuels, si on arrivait à une affaire antisémite qui mettait en danger, finalement, parce qu'on criait... déjà à mort aux Juifs et que donc les Juifs se trouvaient à nouveau rejetés de la société française, c'est que l'émancipation avait échoué et qu'il fallait donc trouver autre chose. Et tous les deux arrivent à la conclusion que le peuple juif doit retourner sur sa terre, retrouver son ancienne gloire, son ancienne grandeur, et donc retrouver ce passé et le lieu où cette histoire s'était déroulé. Puisque l'Europe échouait dans sa mission émancipatrice à l'égard des Juifs, il fallait donc trouver autre chose. Et ce n'est que par l'existence d'un État, que par la création de ce que représente l'État en tant que force, en tant que puissance, en tant que, en tant que message pour l'autre, que les Juifs seraient reconnus. Ça, c'est extrêmement important. Herzl était quelqu'un qui avait pas beaucoup de sympathie pour la communauté juive, pas beaucoup de sympathie pour les notables juifs, pour les leaders de la communauté. Bernard Lazare, pareil. Et ce que dit Peggy, c'est assez triste. Il dit, à propos de Bernard Lazare, finalement, le seul qui ait vraiment apprécié Bernard Lazare et son courage, c'est Drumont. Parce que à chaque fois que Drumont écrivait des choses horribles sur les Juifs, Bernard Lazare le provoquait en duel. Donc il y a eu un duel. Alors, comme tous les deux ne savaient pas utiliser un revolver, donc à chaque fois il y avait eu des duels. À plusieurs reprises, Bernard Lazare se battait en duel, une fois contre Drumont, une fois contre d'autres journalistes. En général, ils tiraient à côté, on tirait à côté, ça se terminait comme ça, ils se serraient la main. Mais d'une certaine façon, Drumont avait beaucoup de respect pour Bernard Lazare. Il disait, voilà un type courageux, voilà quelqu'un qui est fier de ce qu'il est, qui n'est pas un juif honteux. Et Herzl, c'est à peu près la même idée. Herzl dit à un moment, nous devons nous séparer, nous devons combattre l'antisémitisme et nous séparer amis de nos ennemis. Quelque part, bon, voilà. Et il conclut en disant cette phrase, c'est le début de l'honneur juif. Cette notion d'honneur, de dignité, de fierté retrouvée, c'est absolument fondamental pour l'origine du sionisme. Cette idée-là est à la base du sionisme. Après, le sionisme va se développer. Il y a des courants. religieux, socialiste, voilà, le sionisme. Et puis il y a toutes sortes de visions du sionisme, de comment accomplir ce retour et comment recréer cet État juif sur la terre d'Israël. Les points de vue divergent. Il y a des gens qui se fondent sur une vision plus religieuse, il y a des gens qui se fondent sur une idée un peu, je dirais, utopique, socialiste, qui veulent créer une société modèle, vous voyez, les kibboutzim, etc. Et vous avez des gens qui pensent qu'avant tout, il faut créer un État, après on verra ce que disait Jabotinsky, que vous avez évoqué, qui disait, moi, d'abord on crée un État, et moi je descends à la station État juif. Après, les gens décideront de comment ils veulent vivre. Je ne devais pas fixer à l'avance le modèle de cette société juive. La France, pourquoi la France a raté parce que ce rendez-vous au moment de l'affaire Dreyfus? Parce que le sionisme politique est né en France et que la France n'en a absolument pas tenu compte dans sa politique. Bien au contraire, la France a commencé, à partir de la Première Guerre mondiale, à avoir, par rapport à la question d'Israël, à faire renaître une espèce d'idée coloniale, impérialiste. Alors aujourd'hui, on appelle ça la Méditerranée, enfin, toutes sortes d'idées. Mais l'idée était une idée impérialiste et coloniale, à savoir mettre la main sur une partie du Proche-Orient parce que, entre autres, il y avait du pétrole. Ce qui a eu un effet extrêmement tragique pour moi sur l'histoire de la France. Depuis 1535, la France était le protecteur des lieux saints. Et c'était une mission que la France accomplissait. Le responsable, le tuteur, si vous voulez, des lieux saints, c'était le consul de France à Constantinople. C'était un accord avec les Turcs, avec l'Empire ottoman. Et donc, c'était parfaitement accepté. La France protégeait les lieux saints. Jérusalem, Bethléem. Au moment où la France a commencé à jouer sa carte, je dirais coloniale, pendant la Première Guerre mondiale, et donc n'a absolument pas tenu compte d'une alliance possible avec le mouvement sioniste. Jabotinsky raconte dans sa biographie qu'il rencontre le ministre des Affaires étrangères, Delcassé, à l'époque, et qu'il essaie de lui parler du sionisme, et il sort de l'entretien absolument effondré en disant qu'il n'a rien compris, il n'y a pas avec qui parler. Et la politique coloniale de la France a abouti au fait que la France a perdu son titre de gardien, de protecteur des lieux saints. Et que les Français ont été, on pourrait dire, expulsés de Jérusalem et des lieux saints qu'elle protégeait en Palestine. Affaire dramatique. Les Français n'ont absolument pas compris. Ils ont préféré un découpage du Proche-Orient selon des intérêts. Et il y a cette conversation qui est racontée dans un article assez intéressant sur justement sur les relations entre Israël et la France du point de vue diplomatique, si vous voulez. C'est le moment, contrairement à Henri IV qui disait « Paris vaut bien d'une messe », Clémenceau qui dit « c'est pas très grave, si il vaut mieux avoir une grande Syrie que protéger Jérusalem et les lieux saints ». Et donc la France renonce et se fait d'ailleurs expulser de façon assez, assez honteuse au moment de tout de suite après la Première Guerre mondiale. Et officiellement, c'est même le Vatican qui valide cette expulsion en 1924 par le Monseigneur Chouassé, Monseigneur Serretti à l'époque, qui représentait le Vatican et qui dit « bon, bah, les Français... » voilà. Donc la France, c'est quelque part, a commencé à ce moment-là à s'éloigner de sa mission, je dirais universelle, par rapport à Jérusalem. Alors que c'était une mission que la France avait toujours essayé d'accomplir, même depuis le XIe, XIIe siècle, même dans l'esprit des croisades. Il y avait aussi cette idée de reconstruire Jérusalem, d'avoir ce lien avec cette terre d'Israël. Et donc, rendez-vous manqué. Alors, la Première Guerre mondiale, le résultat, vous pouvez vous en rendre compte aujourd'hui, le résultat de la Première Guerre mondiale, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Irak et en Syrie. La France et l'Angleterre qui se partagent le gâteau, si je peux dire. Alors, le sionisme évidemment a été soutenu par les Anglais. Donc, du coup, le mandat britannique est un mandat qui a pour but de créer un foyer juif en Palestine. Donc, c'est la politique officielle de l'Angleterre. Donc, les sionistes se mettent avec l'Angleterre. Du coup, renoncent à leur lien avec la France. Et la France, évidemment, dans un projet, je dirais, de vouloir avoir ce qu'on a appelé après une politique arabe, hein, c'est la politique du Quai d'Orsay, de vouloir être finalement une puissance dans cette région. Sauf qu'on crée un État qui ne ressemble à rien, sans tenir compte des réalités qu'on dirait aujourd'hui géopolitiques, à savoir les groupes religieux, les ethnies. Et donc, vous savez ce que c'est que la Syrie aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, évidemment, puisqu'il y a la guerre. Et puisqu'il y a ce fameux État islamique et le rétablissement du califat qui n'a surpris que les gens qui n'étaient pas au courant de ce qu'était l'histoire. Mais ce califat, c'est le renouvellement d'une guerre qui existe depuis très longtemps entre les différentes ethnies. Pourquoi la France a sa responsabilité là-dedans ? C'est parce que la France a décidé, pour des raisons entièrement politiques, de politique coloniale, de donner le pouvoir aux chiites et aux alaouites, alors que les sunnites étaient majoritaires. Et donc, ils ont mené pendant très longtemps, je dirais 70 ans, voire plus, une politique de persécution à l'égard des sunnites et des kurdes et des druzes et des chrétiens. Alors les chrétiens, pendant un certain temps, ils ont été protégés parce que la France était là. Mais bon, aujourd'hui, je ne ferai pas de commentaires, toute l'actualité parle d'elle-même. Sauf que les frontières ont été dessinées avec une règle. De façon, si vous regardez les frontières du mandat du protectorat, du mandat britannique et du protectorat, c'est tiré à la règle, enfin, je veux dire. La Jordanie, par exemple, ce qu'on appelait à l'époque le royaume hachémite de Transjordanie, c'est une terre qui a été donnée à des gens ou à un groupe de bédouins, si vous voulez, une tribu bédouine qui venait d'Arabie Saoudite, de ce qu'on appelle le Hijaz, et à qui on avait promis le pouvoir en Syrie, mais comme les Britanniques n'avaient pas pu leur accomplir leurs promesses, donc ils leur ont donné en compensation une partie de ce qu'on appelait la Transjordanie, qui était en fait une partie du mandat britannique destinée à être le foyer juif. Ça veut dire que la première chose qui s'est passée tout de suite après la Première Guerre mondiale. Je ne parle pas d'un autre rendez-vous manqué, parce que je vois qu'il me reste à peu près 5 minutes. Autre rendez-vous manqué entre les Français et les Juifs, je ne vais pas parler de la période de la guerre, c'est évident, de la période de la collaboration, avec tout ce qui a pu se passer en France, avec des choses aussi, des enfants sauvés par l'Église catholique. Hein. Ma mère était enfant cachée dans un couvent, donc sauvée par des catholiques et par un réseau juif et catholique qui sauvait des enfants. Et puis d'autres choses qui se sont passées, donc dont on connaît ces horreurs-là, on n'a pas besoin de les rappeler. Après la guerre, il y a un changement d'attitude et il y a une période dorée entre la France et Israël, à peu près du milieu de la guerre, à peu près à partir de 1943-1944, après le débarquement américain en Provence et ensuite la résistance, où il y a eu de nombreux juifs qui ont participé au groupe de résistance et ensuite au réseau de sauvetage. Il y a un événement que je raconte dans mon livre qui se passe en Afrique au moment du fameux combat de Bir Hakeim, qu'on connaît, c'est le général Koenig. Un général Koenig rencontre pour la première fois dans une petite, sur une petite colline qui s'appelle Bir el-Harmat, qui rencontre ce qu'on appelle la Brigade juive. Brigade juive, c'était un groupe de volontaires juifs qui étaient dans l'armée anglaise et qui se battaient aux côtés de l'armée anglaise et qui se battent justement pour aider la France à Bir Hakeim, à conquérir, à gagner cette bataille de Bir Hakeim. Et lorsque le général Koenig arrive et voit ce groupe de juifs, ils étaient 400 au départ, il y en a 300 qui sont morts dans cette bataille. Et lorsqu'il arrive sur place, les gens baissent le drapeau. Ils ont un drapeau avec l'étoile de David, ils baissent le drapeau. Et le général Koenig dit « Mais pourquoi vous baissez votre drapeau ?» Et ils disent « Mais on n'a pas le droit d'arborer ce drapeau puisque nous sommes dans l'armée britannique. » Et là, le général Koenig dit « Mais comment, pas du tout. Levez ce drapeau. » Et il dit aux officiers français « Saluez le drapeau de l'étoile de David. » Et c'est Koenig qui va un petit peu changer l'attitude de la France en disant « Comprends à ce moment-là qu'à partir du moment où les Juifs, dans cette brigade juive, sont prêts à se battre, pour aussi recréer et rétablir leur souveraineté en terre d'Israël, il comprend que le sionisme, c'est quelque chose de fort qui va réussir son entreprise. Et il y a une période où la France va aider Israël et garantir sa pérennité jusqu'à aujourd'hui. Le développement, je dirais, de l'arme nucléaire en Israël, c'est grâce à la France. C'est la période, disons, de 47 à... Alors, sans compter les bateaux de le soutien à l'immigration illégale pendant la guerre d'indépendance, sans compter la fourniture d'armes, voilà. Jusqu'en 67, nous allons avoir une période où la France et Israël sont amis, sont ensemble, et il y a, je dirais, une vraie communauté d'intérêts et de destins entre la France et Israël. J'en arrive à 67, je ne vais pas terminer là-dessus, mais tout le monde a en souvenir la fameuse conférence de presse du général de Gaulle qui dit, voilà, peuple sûr de lui-même et dominateur, etc. Pour moi, le général de Gaulle n'était pas antisémite du tout, même s'il avait voilà, des origines maurrassiennes, etc., qu'il était dans l'Action française. Mais il fait quelque chose qui est malgré tout assez important pour les relations, c'est qu'il libère une parole. C'est ce qu'ont dit plusieurs observateurs à l'époque. Ils disent finalement, les Juifs, jusqu'en 1967, on considérait le peuple juif avec une certaine, je dirais, un certain intérêt, et surtout, on le considérait comme un peuple qui avait souffert, et donc qui avait droit à leur indépendance, et à leur souveraineté, et à l'existence d'un État. À partir de 1967 et de cette conférence, où ce n'est pas la phrase importante dans la conférence de presse, ça n'est pas « peuple sûr de lui-même et dominateur », bon, qui est une formule qui a marqué, c'est la suite de ce qu'il dit. Et lisez la suite si vous en avez l'honneur, c'est que De Gaulle, qui était quelqu'un chrétien, qui avait lu la Bible, qui connaissait l'histoire du peuple juif, dit « ce peuple juif, maintenant, il est redevenu ce qu'il était, à savoir un peuple guerrier, un peuple belliqueux, un peuple, pour être vulgaire, un peuple d'emmerdeurs. Et donc, qui n'ont pas écouté en plus, et qui n'ont pas voulu écouter ma parole sage de sagesse, etc., etc. Donc, ce peuple-là va devenir un danger, il va revenir à ses anciennes pratiques belliqueuses donc, qu'on connaît depuis son passé glorieux. Il rappelle le passé glorieux de cette nation. Et il y a là quelque chose de fondamental, c'est qu'il libère une parole. Il y a un côté expiatoire dans la parole de De Gaulle à ce moment-là. Et ça va libérer, finalement, la haine contre Israël qui va se développer, pas seulement dans les milieux gaullistes, mais aussi sur les campus. Alors il faut savoir qu'à partir du moment où l'alliance entre la France et Israël est brisée, Israël n'a pas d'autre choix que de s'allier avec les États-Unis, que les États-Unis sont en pleine guerre du Vietnam, que les États-Unis, c'est l'impérialisme, c'est le colonialisme, c'est tout ce que vous voulez. Et donc, à ce moment-là, Israël va être assimilé dans le discours sur les campus universitaires, dans ce discours tiers-mondiste, marxiste, révolutionnaire. Israël va être assimilé à l'impérialisme américain. Et on va utiliser un certain nombre de termes à propos d'Israël qu'on entend encore aujourd'hui. Les colonies, l'occupation, etc., etc. Bon. Tout ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a d'ailleurs qu'en français qu'on utilise le mot de colonie à propos des implantations juives. En anglais, on dit « settlements », qui est un mot neutre. Mais lorsqu'on dit « colonie » en France, dans une période de décolonisation, on sait très bien ce qu'on fait. Vous voyez, tout est dans la sémantique aussi. Et voilà, je pourrais poursuivre le propos. Va s'installer en France une politique et aussi une ambiance qui est... Alors, l'antisémitisme, ce n'est pas très bien vu. Donc, on va dire antisioniste. Je vois qu'on est sur la limite. Alors, je veux dire un mot sur l'antisionisme. Alors, évidemment, la politique a continué sur, je dirais, cette vision-là, un petit peu pro-arabe et peut-être anti-israélienne. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est qu'on a laissé s'instaurer un discours qui est un discours dangereux. C'est-à-dire qu'on a commencé par adopter toute la sémantique de nos adversaires. Alors aujourd'hui, il n'y a aucun problème. On dit Daesh, djihad, intifada. Personne ne cherche à savoir ce que ça veut dire à chaque fois, si c'est approprié à la situation ou pas. Peu importe. Je ne sais pas pourquoi on dit d'ailleurs en ce moment Daesh, alors qu'on pourrait très bien dire État islamique ou califat. Il y a des très bons mots en français. Alors il y a un mot assez curieux, c'est intifada. Intifada, en fait, au départ, c'est une guerre civile entre musulmans. À l'origine. Donc on utilise ce mot-là parce que on l'utilise. Donc tout le monde reprend les termes sans vraiment les utiliser. Donc c'est pareil pour voilà, occupation. Alors, il y a un mot qui est entré dans le discours petit à petit de la politique française, c'est quelque chose qui s'appelle la disproportion. Et par exemple, l'État d'Israël a des actions disproportionnées. Parce que voilà, il n'y a que Israël qui fait de la disproportion. La France au Mali tire sur des femmes et des enfants aussi, mais ce n'est pas disproportionné parce que les soldats français ont un sens de la proportion. Donc, oui, ce sont des choses qui sont très énervantes, mais voilà, c'est la situation du langage actuel, de la doxa qui, vous entendez. Et je voudrais finir sur une chose, c'est l'antisionisme. Il y a quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Pour moi, l'antisionisme, c'est beaucoup plus grave que l'antisémitisme. Comme je disais tout à l'heure, on peut... Bon, je suis né en France, donc j'ai connu des antisémites qui avaient toutes sortes de raisons d'être antisémites, personnelles ou autres. Bon, dans leur famille, il y en a qui sont nés comme ça, en lisant l'Action française ou en étant, je ne sais pas, Ordre Nouveau ou au Front National ou je ne sais pas quoi. Ils sont nés comme ça, ils ne savent même pas pourquoi. Bon. Ce que disait mon professeur, Pierre Boutan, qui avait été antisémite et qui disait... Je suis né antisémite parce que mes parents l'étaient. Il n'y avait pas un juif à Saint-Étienne, mais voilà. Après, bon, il a commencé à changer de point de vue. Heureusement. Et donc l'antisémitisme peut être quelque chose de tout à fait ponctuel, tout à fait lié à des phénomènes sociaux, économiques ou autres. L'antisionisme, c'est beaucoup plus grave. Parce que qu'est-ce que c'est que l'antisionisme ? L'antisionisme, c'est la négation du droit à un peuple d'exister. Et donc, il ne s'agit pas du voisin que vous détestez parce qu'il a fait fortune ou qu'il est plus riche ou parce que les juifs ont inventé la psychanalyse ou je ne sais pas quoi, ou le capitalisme, mais c'est la détestation, c'est la volonté d'effacer, de nier l'existence même d'un peuple. Et ce n'est pas seulement un peuple, c'est un peuple qui est à l'origine de la notion même de peuple. Alors, quand en France, la notion de peuple aujourd'hui est écrasée par un concept englobant comme l'Europe, mais demain ça pourrait être un autre concept dans lequel les gens ne se reconnaissent plus, donc il n'y a plus de peuple. C'est une question que je pose au début du livre. En quoi les Français sont français comme les Juifs sont juifs en Moïse? En quoi que veut dire aujourd'hui avoir une identité? Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui disent que l'identité c'est un malheur. Finkielkraut parlait d'identité malheureuse. Moi, je dis, je n'ai pas d'identité, j'ai une appartenance. Je ne me sens pas comme quelqu'un qui doit répondre à la question d'identité. Et forcément, le problème de l'identité, c'est qu'aujourd'hui, on va vous expliquer que l'identité, elle est multiple, puisque je ne ressemble plus à rien. Donc, on est dans un métissage, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui une pensée qui est à la fois teintée de plusieurs éléments qui sont tous... contraire à ce que j'appellerais une vision judéo-chrétienne. La première, c'est une espèce de multiculturalisme dont toutes les cultures se valent. Il n'y a pas de hiérarchie de valeurs. Tout est exactement pareil. Après, vous avez ce qu'on appelle un postmodernisme. Voilà, tout est dans une espèce de relativité. Et le dernier point, c'est le négationnisme de la famille, de la notion même de famille. Or, s'il y a une idée qui est... fondamentalement juive, profondément juive, c'est cette notion de filiation. Parce que le judaïsme se transmet par la filiation. Alors, moi, encore une fois, nous vivons dans une société où, au lieu de penser à, non pas qui est juif, ce dont je me fous complètement, parce qu'un juif, c'est quelqu'un qui est toujours entre deux, si vous voulez, qui est ni le premier et qui, a priori, devrait ne pas être le dernier. Donc, pour moi, l'important est de savoir si je peux transmettre et s'il y a vraiment cet acte de transmission qui peut s'accomplir à travers, évidemment, une filiation. Mais s'il n'y a plus de lien, s'il n'y a plus... de cette relation d'appartenance. Et donc, évidemment, nous sommes dans une disparition totale, non pas de l'identité, mais de la notion même d'appartenance à un projet, un destin. Moi, je ne sais pas si les gens sont... Vous voyez, le bonheur, par exemple, ce n'est pas une idée qui m'a toujours inspiré. En revanche, l'idée de savoir s'il y avait quelqu'un après moi qui allait continuer quelque chose que j'avais reçu de mes parents, ça, c'était important. Donc, je ne suis pas là pour le définir. Si c'est un contenu plus religieux, plus culturel, plus politique ou autre, ce n'est pas à moi de le dire. C'est à mes enfants ou mes petits-enfants maintenant de le dire. C'est eux qui définiront le contenu. Et je donne toujours cet exemple à propos du judaïsme. Je terminerai là-dessus pour vous laisser quand même poser quelques questions et discuter et éventuellement même ne pas être d'accord, ce que j'adore. C'est une histoire juive qu'on raconte comme ça. C'est un juif qui a l'habitude de traverser tous les jours la frontière avec une brouette et du sable. Et chaque jour, il traverse la frontière avec sa brouette et son sable. Évidemment, le douanier lui dit « Qu'est-ce qu'il y a là dans ton sable ?» Donc, on passe le sable au tamis. Le douanier pense que c'est de l'or ou peut-être de la poudre de diamant. Et finalement, on ne trouve rien. Et il passe comme ça tous les jours, comme ça. Et un jour, il ne vient plus. Le douanier dit « Tiens, il est peut-être mort. » Quelques jours après, il arrive au bord d'une grosse voiture, apparemment devenu très riche. Alors le douanier, bon, regarde dans le coffre, il n'y a rien. Il lui dit, mais alors, je voudrais comprendre, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ton sable? Qu'est-ce que tu transportais? Il dit, je ne transportais pas du sable, je transportais des brouettes. Et donc le judaïsme, c'est ça. Le judaïsme, c'est quelque chose qui se transmet. Voilà, c'est la brouette qui est importante. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la brouette que j'avais l'habitude de faire à mes étudiants en vous expliquant que la brouette est quelque chose d'extrêmement difficile à manier. Mais quelque part, c'est un outil curieux. C'est que quand vous montez, c'est-à-dire quand c'est difficile, vous tenez bien votre brouette, donc ça marche bien. En revanche, en descente, les brouettes, c'est très, très, très difficile à manier. Donc, quand on est dans une société qui est comme ça en descente, il faut bien tenir la brouette. Donc, je vous propose de donner d'un collège supérieur catholique des cours de conduite de brouette. Merci.